La grande matinale, le mag, c'est parti pour une heure de culture et de société. Je vous emmène jusqu'à 10h au menu du patinage, dans la douleur. Charline Vanhoenacker, tout à l'heure, qui racontera comment Bernard Arnault a été intronisé à l'Académie des sciences morales et politiques. Musique avec Daphné Burki et sa nouvelle tête. Et puis vers 9h20, notre débat du jour. Je voudrais savoir, quand les journalistes parlent du Rassemblement National ou d'Éric Zemmour, doivent-ils utiliser le terme extrême droite? Comment faut-il nommer les choses? Les médias ne font pas tous le même choix et on en discutera. Mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale, Sonia De Villers.
Gabriela Papadakis, 5 fois championne du monde et 7 fois championne de France, publie aujourd'hui « Pour ne pas disparaître ». Le livre raconte crûment l'effroyable dureté d'un tel niveau d'entraînement pour elle, enfant. Elle y dénonce les injonctions à la féminité à laquelle une patineuse doit se soumettre sans relâche. Mais surtout, elle dit combien le couple qu'elle a formé 20 ans durant avec Guillaume Cizeron, ils sont médaille d'or olympique tous les deux, a fini par devenir une source de mal-être et de persécution. Seulement voilà, son ancien partenaire sur la glace se dit effaré de ce que contient le livre et meurtri. Il s'en remet à ses avocats, mais à 3 semaines des JO d'hiver, alors que le patinage sera admiré dans le monde entier, Gabriela Papadakis semble vouloir faire sortir une rage trop longtemps contenu. Portrait numéro 74. Bonjour Gabriela Papadakis.
Bonjour.
Bah, je vous sens hilar, c'est quoi? Vous vous sentez libérée?
Ouais,
ça y est,
après,
c'est sorti.
Je pense que c'est mon état normal.
C'est vrai.
Je suis de bonne humeur de manière générale. Non, mais ouais, bah en fait, voilà, j'écris un livre et
le j'en livre parle, il paraît chez Robert Laffont. Ouais. Il sort aujourd'hui en librairie. Quand je dis, il fallait que ça sorte, il fallait l'écrire, il fallait le dire, il fallait se faire entendre, c'est ça?
Ouais, bah moi, c'était important pour moi, en effet, de de raconter mon histoire et de reprendre un peu contrôle sur sur mon histoire, sur ce que je raconte, sur qui je suis, et c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, et voilà, j'ai travaillé là-dessus depuis ça fait longtemps, mais la plupart de la dernière année. Donc pour moi, c'est quand même une consécration aussi de d'être là, depuis de pouvoir en parler.
Voilà, alors quand même, on vous réécoute au JO, parce que quand même, cette médaille d'or, elle est restée imprimée dans le regard du public. Mm-hmm. Maintenant, il faut savoir ce qu'il y a derrière la médaille d'or.
Les quadruples champions du monde, les vice-champions olympiques ont pensé avec minutie ce rendez-vous d'une vie. Ils sont au-dessus du lot. Ils sont en homme, une évidence sur la glace. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron sur ce programme court. On a tremblé, mais on est ravis d'avoir encore assisté à un moment de création de ces précurseurs.
Voilà, maintenant, il faut regarder le score.
D'émotion, c'était le programme d'une vie partagée, 17 ans.
Oui.
Ils sont champions olympiques. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron sont allés chercher leur Graal. Et c'est mérité.
Vous avez survolé la discipline, vous avez tout gagné. En fait, ce qu'on ignore, c'est que vous avez commencé à patiner ensemble tout petit à Clermont-Ferrand. Et ce que vous expliquez dans votre livre, Gabriela Papadakis, c'est que c'est tout l'enjeu pour une petite fille. Mm-hmm. C'est de trouver le garçon qui acceptera de patiner avec elle, et pas l'inverse.
Oui, en effet, dans le milieu du sport, dans le milieu du patinage, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de choses qui sont encore... Moi, à mon avis, a changé. Et en effet, je pense que c'est ça qui... Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça, justement, comment on grandit quand, dès toute petite, en fait, il y a ce déséquilibre.
Il y a beaucoup plus de filles.
Beaucoup plus de filles que,
beaucoup moins de garçons.
Que de garçons. Et que, du coup, les garçons ont un peu tout le choix, tout le pouvoir. Les filles ne l'ont pas. Elles sont choisies et traitées des fois comme remplaçables. Et en fait...
Et ça se fait très, très jeune. Qu'en réalité, si une petite fille, avant 10 ans, n'a pas de partenaire garçon, elle ne peut pas s'entraîner. Elle ne peut pas s'entraîner comme il faut pour la compétition.
Oui.
Donc elle est out.
Ouais, complètement.
Ouais.
Ouais, complètement. Et ça, en fait, moi, j'ai beaucoup réfléchi dans les derniers temps, justement, à quel impact ça pouvait avoir sur une personne qui grandit avec cette idée-là déjà quand elle est jeune, et comment comment on se construit là-dessus.
Il y a des rôles très très codifiés, très genrés, oui. très codifiés dans le patinage mmh. artistique, faire la fille, faire le garçon, c'est-à-dire mmh. que sur la glace, vous allez être celle qui est portée, quand mmh. Guillaume Cizeron sera celui qui va porter, mmh. mais ça aussi, ça a des incidences, c'est très symbolique, c'est-à-dire que vous êtes un objet qu'on déplace et qu'on soulève. C'est comme ça que vous l'avez vécu ?
Ouais, c'est en effet, je pense que oui, il y a beaucoup de choses que j'ai vécues comme ça. En effet, je pense que j'avais un... Enfin, à la fin, je ressentais justement que j'étais pas nécessairement maître de ma carrière, maître de mon corps, parce que à cause de tous ces codes-là qui sont acceptés par tout le monde, en fait, qui sont normalisés, où les hommes sont un peu les dirigeants et les femmes sont dirigées, et donc où le corps de la femme est un peu objectifié, devient un objet de la performance d'une certaine façon, et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas de l'extérieur, et que de l'intérieur, comme on est dans un monde où on grandit, où c'est normalisé, on le remet pas en question. Et moi, c'est en fait parce que l'année dernière, j'ai patiné avec une femme, j'ai fait tout ce travail-là, et en fait, je me suis dit, attends, mais c'est là.
Breaking
news.
Gabriella Papadakis patine en duo avec une femme, il n'y a qu'au Canada que c'est autorisé, mais enfin, je veux dire, ça, les images ont fait le tour du monde.
Ouais, alors ça a changé du coup, maintenant, c'est autorisé aussi en Angleterre et en Finlande.
Mm-hmm. Et puis, il y a aussi une injonction à la beauté, c'est-à-dire qu'il y a des pages et des pages et des pages dans ce livre sur le maquillage.
Ouais.
Pourquoi autant de pages ? Non mais c'est intéressant de comprendre pourquoi le maquillage finit par être aussi persécutant.
Ouais, parce qu'en fait c'est comme si l'apparence était plus importante que la performance, et c'est traité comme ça dans le sport, dans le patinage, et y a un espèce de double standard aussi, où en fait nous on fait un espèce de sport qui est mixte, mais les femmes et les hommes n'ont pas du tout les mêmes attentes, ne doivent pas du tout correspondre au même code, au même schéma, et où il y a une charge de travail énorme pour la femme.
Mais on sent que vous vous sentez jugée en permanence, on sent que vous vous sentez scrutée en permanence par les juges, même à l'entraînement, que vous surveillez tous vos gestes, que vous surveillez vos mimiques, que vous êtes obsédée par Tessa Virtue, c'est ça, je prononce bien son nom. Non, mais c'est une grande patineuse, vous avez été concurrent, vous avez été même des concurrents, des rivaux féroces sur la glace, et que vous êtes obsédée, elle est plus âgée qu'elle, ça vous angoisse, ça vous renvoie un miroir de vous-même en permanence, vous avez l'impression que c'est la femme parfaite et pas vous, c'est ça ?
Oui, ça, c'est... j'ai passé une période justement où moi elle était mon idole, et d'un coup elle est passée à être ma concurrente, et ça a été intéressant, évidemment ça n'a rien à voir avec elle, puisque c'est des choses que je projetais sur elle, c'était ma propre mes propres insécurités, ce que je vivais, que je projetais sur elle, mais oui, en fait parce que c'est un milieu qui moi je voulais explorer justement cette espèce de compétitivité féminine où on est toutes comparées l'une à l'autre, et où c'est comme s'il n'y avait qu'un modèle de féminité qui était acceptable, et donc c'est à qui va le respecter, à qui va rentrer le plus dedans, et à qui va gagner cette compétition-là, et ça a été très... c'est quelque chose que j'ai vécu, en tout cas à l'époque, c'est quelque chose que j'ai vécu de manière très très intense.
Bon, je vous fais écouter la voix de Guillaume Cizeron, vous avez participé tous les deux à un documentaire qui vous a été consacré. On écoute ces propos qu'on a extraits de ce documentaire.
On nous demande souvent d'essayer de décrire notre relation ou de se décrire l'un l'autre. Je pense qu'on s'est engagé l'un envers l'autre à poursuivre un chemin ensemble, et c'est quelque chose qu'on n'a jamais remis en question. Les 6 dernières années, je pense, on a travaillé avec une coach mentale qui nous a aidés, entre autres, à prendre soin de cette relation, à apprendre à communiquer, à mieux communiquer ou à communiquer tout court. Mon rôle dans le couple, c'est d'être un leader. J'ai besoin de me sentir en contrôle parce que j'ai quand même quelqu'un qui dépend de moi.
Ça vous met mal à l'aise d'entendre la voix de Guillaume Cizeron?
Non,
vous vous êtes bouché les oreilles.
Oh, pardon, oui. Non, mais ça fait quand même longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je sais pas quoi répondre à ça. Moi j'ai écrit mon histoire dans mon livre. En plus, mon histoire, ça oui, Guillaume, enfin mon ancien partenaire, évidemment, il est très présent parce que cette relation-là, elle a fait partie de ma vie pendant 20 ans.
Il faut qu'on explique. C'est-à-dire que vous décrivez une relation qui s'est très tôt déséquilibrée, mm-hmm. selon vous. Il prend les décisions, il impose. Mm-hmm. Vous devez vous conformer à ses projets, à ses ambitions. D'ailleurs, on entend, mm-hmm. c'est pour ça qu'on a choisi cet extrait, mm-hmm. où il dit « Moi, mon rôle, c'est d'être leader ».
Oui. Voilà. Ben oui. Ben,
c'est
moi,
ça dont vous
fait,
avez dû faire.
Moi, j'ai écrit un livre pour remettre ça en question, en fait. C'est quelque chose que moi, j'ai normalisé aussi pendant très longtemps. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi ? Enfin, moi, en tout cas, je voulais explorer des manières de justement faire couple autrement, faire duo autrement. Moi, voilà, c'est quelque chose que j'ai eu de la difficulté à vivre, en effet, qui a amené à beaucoup de difficultés. Et ouais,
parce que par exemple, vous dites que vous avez eu beaucoup de périodes où vous alliez mal, mmh. physiquement. Mmh. Des commotions, des chutes, des blessures. Mm-hmm. J'imagine que c'est mm-hmm. le quotidien des sportifs de haut niveau, mais aussi moralement. Ouais. Vous avez eu des périodes de down terribles, mm-hmm. des moments très durs. Et vous dites que vous avez vécu ça dans une culpabilité immense, mm-hmm. immense, mm-hmm. Et qu'il fallait serrer les dents et qu'il fallait remonter sur les patins, mm-hmm. parce que sinon, c'est la carrière de l'autre qui mm-hmm. bascule, mm-hmm. c'est les performances de l'autre qui
ouais.
basculent.
Ouais, ouais, bah c'est une relation qui est très compliquée parce que, enfin, qui est très complexe parce que tout ce qu'on fait a de l'incidence sur l'autre.
C'est ça.
Donc voilà, si
pendant
on se blesse, ouais, pendant 20 ans. Donc si on se blesse, ben ça a de l'incidence sur la carrière de l'autre. Si on tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait dans notre vie publique, privée, à l'intérieur du duo, à l'extérieur, ça a de l'incidence sur l'autre, l'incidence sur la carrière de l'autre. Donc ça met les choses, ça rend la relation très compliquée. Et en plus, on n'a aucun outil pour gérer ces relations qui sont aussi compliquées. Les entraîneurs généralement ne s'en mêlent pas non plus. La fédération ne s'en mêle pas.
Vous avez eu affaire à une sorte de psy de couple ou de coach ou de préparateur qui vous a aidé à communiquer, oui. parce que vous n'arriviez plus du tout à communiquer.
Je pense qu'on est devenu très différent dans notre manière, dans ce qu'on voulait. Moi, j'avais commencé justement, ce que je raconte dans mon livre, à re-questionner ces dynamiques de genre, ces dynamiques de pouvoir. Moi, j'avais envie de pouvoir prendre plus de place, j'avais envie de pouvoir avoir ma parole, d'être respectée. Et ça, c'était compliqué de changer cette dynamique qui était aussi longue. Je pense que quand on a commencé à faire de la thérapie de couple avec une professionnelle de thérapie de couple, c'était très très tard et malheureusement c'était trop tard.
Mais vous en arrivez à avoir peur de Guillaume, c'est-à-dire mmh. vous avez quand même des phrases très fortes, hein. Mmh. Vous dites l'idée de me retrouver seule avec lui me terrorise, mmh. ses attitudes me désarçonnent, parfois elle m'ignore, parfois elle joue les meilleurs amis comme si de rien n'était, sa froideur me glace le sang, mmh. Mmh. On en est arrivé là ?
Mmh. Oui. Oui, c'est en effet des phrases que je raconte dans mon livre. C'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu. C'était une relation qui a été très difficile à vivre, que j'ai essayé de changer, que j'ai essayé d'améliorer, que finalement, j'ai dû partir, quoi. Mmh. Mmh.
Bon, on va réécouter Guillaume Tizeron. C'est l'extrait qu'on a entendu ce matin. Il était au micro de Noureddine Zidane, mon confrère de la rédaction des sports, dans le journal de 7h30. Mmh. Parce que lui, évidemment, il vit mal mm-hmm. ce que vous avez écrit.
Ça me touche, c'est sûr. Ce serait difficile de dire le contraire. C'est tout simplement des propos dénigrants et diffamatoires. Malgré le respect et la compassion que j'ai et que j'ai eue envers Gabriella, je ne peux pas tolérer ce genre de propos à mon égard.
Bon, il se dit extrêmement blessé par ce que vous décrivez. Vous vous y attendiez.
Je le comprends.
Vous le comprenez.
Je le comprends et en même temps moi j'ai voulu raconter mon histoire dans un livre. Cette relation fait partie de mon histoire.
Ouais.
J'ai été honnête et sincère sur mon expérience, sur ma perspective. S'il a une perspective différente, ça lui appartient évidemment. Et voilà.
Mais il a expliqué aussi que lui il avait affaire à une partenaire qui était fragile. psychologiquement, vous, que c'était pas toujours facile à gérer. Pour lui, qu'il a fait du mieux qu'il a pu avec respect et bienveillance, c'est ce qu'il dit. Mais il dit que voilà, que la phrase qu'il a le plus entendue dans la vie, c'est « Mais où est passée Gabriella ?» parce que vous êtes connue pour vos retards systématiques et permanents, et qu'en réalité, c'est lui qui s'est retrouvé dans la position de devoir prendre les décisions parce que vous avez du mal à prendre les décisions.
D'accord.
C'est ce que je lis moi dans la presse.
Oui, oui, je comprends. Moi, c'est voilà. En effet, comme j'ai dit, il peut raconter sa version s'il en a envie. Moi, ma version, c'est même pas ma version, pas ma version. Moi, j'ai raconté mon expérience dans mon livre. J'ai raconté moi ce que j'ai vécu dans une relation, ma perspective de ce que j'ai vécu. Voilà, moi, je ne sais pas quoi vous dire.
Non, mais je comprends. Je comprends. Et le fait que ça sorte maintenant, alors qu'il y a les JO d'hiver dans 3 semaines, lui, il a reformé un autre duo avec une autre patineuse. Ça vous fait mal de le voir patiner avec une autre femme ?
Moi, je pense que c'est surtout le fait que... En fait, moi déjà, j'ai commencé à écrire le livre à mon éditrice en septembre 2024. Donc ça, c'était bien avant qu'il annonce son retour et que moi, j'en étais au courant, évidemment. Le livre, à l'époque, il devait déjà de sortir pendant les Jeux de 2026 parce que le timing, parce que voilà...
Donc c'est plus votre affaire.
Donc c'est plus mon affaire,
c'est
non ?
C'est plus votre affaire. Dans ce livre, vous racontez aussi, Gabriella Papadakis, que vous avez subi 2 viols. Quand vous étiez jeune, trop jeune pour mettre les mots sur ce qui s'est passé. Une nuit avec un ex-petit copain, blackout absolu. Une nuit avec un entraîneur beaucoup plus âgé que vous et Sarah Abitbol avant vous a dénoncé les coulisses du patinage artistique. Des entraîneurs tout puissants sur des très jeunes filles. Vous dites que vous n'avez pas eu les mots pendant des années et des années pour raconter ça. Ne serait-ce qu'à vous-même, et que ça explique aussi en partie ces grandes difficultés que vous avez rencontrées ces dernières années.
Moi en effet je raconte parce que pour moi c'est un peu à l'image d'un système qui est dans lequel vit encore le patinage, où il y a une espèce de il y a une domination masculine qui existe et qui perdure, que ce soit avec justement ces personnes-là, ces entraîneurs, dans les relations partout en fait, et qui ça a été difficile, mais je pense que c'était plus un tout en fait. Moi c'était un tout et en fait je savais que si je voulais un peu me libérer même psychologiquement de ça, il fallait que je recrée une vie qui soit libre de justement cette domination masculine.
Donc pour raconter tout ça, il faut sortir du patinage, il faut sortir de la relation avec Guillaume Cizeron. Vous vous dites qu'il n'était pas pour du tout que vous dénonciez tout ça. Bon, c'est un reproche qui est très lourd à son encontre quand même. Mais donc il fallait sortir de ce milieu, sortir de cette relation pour pouvoir raconter, pour pouvoir être vous-même.
Bien sûr, évidemment, quand on est dans un système, les gens avec qui que je m'entourais, avec qui j'étais entourée, je respecte leur position, mais on avait des croyances fondamentalement différentes, des valeurs fondamentalement différentes. Et moi, en effet, pour raconter mon histoire, il fallait être libre.
Et votre maman, qui était entraîneuse, qui aurait voulu être patineuse, qui vous a tellement poussée quand vous étiez petite, qui vous réveillait à 5h du matin pour être à la patinoire de Clermont-Ferrand, où il faisait un froid glacial. Votre maman, aujourd'hui, elle comprend que vous ayez raccroché la compétition.
C'est même elle qui... Enfin, je dis pas qu'elle m'a encouragée à quitter, pas du tout. Elle était toujours là pour moi à la fin. Notre relation, elle s'est beaucoup améliorée dans les dernières années. Elle a pris conscience de plein de trucs aussi avec moi. Et elle se faisait beaucoup de soucis pour moi à la fin.
Pour ne pas disparaître, c'est le livre. Le titre est évidemment très fort. C'est là où on voit l'enjeu. Mm-hmm. Voilà, l'enjeu qu'il y avait derrière l'idée d'écrire, et l'idée de parler, l'idée de dire et l'idée de se faire entendre. Mm-hmm. Pour ne pas disparaître, paraît donc en librairie aujourd'hui. Mm-hmm. Et c'est publié chez Robert Laffont. Merci Gabriela Papadakis. Merci. Suzanne Vega est avec Vous allez l'avoir dans la tête. Jusqu'à quelle heure, à votre avis, aujourd'hui? Moi? Qu'est-ce qu'elle dit, Daphné Burki?
Toute la journée,
exactement.
Bonne programmation de France Inter.
Suzanne Vega, Tom's Dinner, c'était 1990. Et c'est resté. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h sur France Inter. À 9h45, Charline Vanhoenacker.
Bonjour la France Inter. On va s'offrir un petit kiff. Allez. La cérémonie d'intronisation de Bernard Arnault à l'Académie des sciences morales,
oui,
et politiques. Devant un parterre de grandes fortunes de politique. J'ai envie de dire miam miam.
Daphné Burki.
Oh, bonjour, bonjour. Bah, derrière, on va faire un petit peu de musique. Je vais vous présenter un phénomène. Il a sorti que quelques titres. Il s'appelle Eve et il remplit les salles 6 mois à l'avance. Il sera dans le studio de France Inter. Il faut absolument que je vous le présente.
Eh bah, bien, il est 9h29. C'est le débat du jour. Débat ce matin sur les termes qu'utilisent les journalistes politiques pour qualifier le RN ou ses alliés européens, hongrois, italiens, polonais ou autres formations politiques françaises. Le terme d'extrême droite a longtemps fait consensus pour qualifier la formation lepéniste, par exemple, tout en étant contesté par les principaux intéressés, mais aussi par certains éditorialistes, comme Mathieu Bock-Côté. Lorsque je l'ai invité à débattre récemment, il s'est adressé directement à moi, écoutez-le.
Ce qui me fait bondir, c'est que vous utilisez, sans, à la manière d'un terme objectif, le terme d'extrême droite, qui est pour moi un terme d'éditorialiste. Une fois que c'est dit, il existe en Europe des partis souverains, des partis nationaux conservateurs, populistes, utilisez le terme que vous souhaitez sans les fasciser. Ces partis ont une...
On ne peut pas utiliser le mot extrême droite.
Ben, je pense que c'est un terme qui témoigne de vos préférences idéologiques. C'est un terme qui n'est pas neutre. C'est un terme qui sert à disqualifier davantage qu'à qualifier.
Alors, quelle bataille politique, quelle bataille idéologique et médiatique se joue derrière le choix des mots? C'est le débat de France Inter.
France Inter. La grande matinale, Sonia De Villers.
Et j'ai le plaisir d'en discuter avec Charles Sapin. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste politique au Point, auteur du livre Les moissons de la colère, plongée dans l'Europe nationaliste. Et on va revenir ensemble sur ce terme de nationaliste.
Avec
le
toi.
Livre est paru aux éditions du Cerf. Et avec vous, Dov Alphond. Bonjour, Dov Alphond.
Bonjour.
Bien connu des auditeurs d'Inter, car vous aviez votre billet hebdomadaire jusqu'à peu, en toute subjectivité, directeur de la publication de la rédaction du journal Libération, dont un papier a attiré récemment mon attention. Libération refuse désormais d'utiliser l'expression Union des droites, car elle est trompeuse, selon vous. Les mots ont un sens. Toutes les droites ne se valent pas. On va en reparler. Charles Sapin, je démarre avec vous. Dans votre travail sur le RN, mais aussi sur ses alliés européens, vous préférez parler de partis nationalistes.
Exactement.
Pourquoi ?
Bah, si vous voulez, à partir du moment où, quand j'ai commencé à travailler sur cette partie-là de l'échiquier politique, j'ai été très vite confronté à cette question sémantique importante. Comment qualifier le Rassemblement national et ses homologues européens ? Alors, il y avait ce terme qui était le plus usité, qui était vraiment l'usage installé, qui était le terme d'extrême droite, et qui paraissait indépassable. C'est-à-dire qu'en tant que journaliste, si vous vous en affranchissiez, vous étiez soudain vu comme un petit peu suspect, au mieux trouble, au pire presque comme un collabo en puissance. Or, dans ma profession de journaliste, je me suis rendu compte que rien n'allait avec ce terme d'extrême droite, pour plusieurs raisons. La première raison, si vous voulez, c'est que c'est un mot valise. Il existe une multiplicité, moi j'en ai trouvé 20, mais avec un peu de patience, j'en aurais sans doute trouvé 100, de définition du terme d'extrême droite, ce qui fait que si vous êtes de gauche, du centre ou de droite, quand vous employez le terme extrême droite, eh ben, ça ne recouvre pas la même réalité, ce qui pose des questions, des problèmes en fait, de compréhension pour
Alors,
les lecteurs
attendez.
Quand vous êtes un journaliste.
Ce que je ne comprends pas là, dans ce que vous venez de dire,
ouais,
c'est que ça
bien.
Qualifie plus la personne qui parle que l'objet
exactement.
Qu'on définit.
Et exactement, et surtout, si vous voulez...
C'est-à-dire en fonction du mot qu'on utilise pour
j'ai
qualifier
un exemple.
Le Rassemblement national, ou autre, ça dit si je suis de gauche, si je suis du centre, ou si je suis de droite, ou si je suis d'extrême droite.
Oui, exactement, et surtout, enfin, si vous voulez, en tant que journaliste, moi, c'est pas mon affaire. Moi, ce que je veux, c'est décrire le réel, donner des clés d'analyse et de compréhension à mes lecteurs. Je suis pas là pour qu'ils me situent sur l'échiquier politique, ou qu'eux-mêmes ne sachent pas, ne comprennent pas tout de suite ce dont je veux parler. Par exemple, vous avez, pendant le quinquennat de François Hollande, vos auditeurs s'en souviennent peut-être, mais Olivier Faure, qui est l'actuel premier secrétaire du Parti Socialiste, avait qualifié d'extrême droite Manuel Valls. Bon, comment faut-il l'entendre ? Il y a un deuxième problème avec ce terme extrême droite très
ça
rapidement.
Ça vous ennuie que Dov Alphond réponde déjà à ce premier
ouais,
point
bien sûr.
L'idée
aucun
que
problème.
Le mot extrême droite est un mot valise, d'abord que c'est qu'il y aurait presque probablement une centaine de définitions et que ça recouvre des réalités différentes.
C'est
déjà.
C'est probablement vrai, mais d'un autre côté, toutes les tendances politiques sont des mots valises. La gauche retrouve par exemple, pourrait définir une réalité qui va du pro-nucléaire jusqu'au pro-éolienne et bien d'autres encore. Tous les courants politiques renferment beaucoup de nuances, probablement 50. Mais si ça marche comme un canard, ça plonge comme un canard et ça caquette comme un canard, c'est peut-être un canard quand même. Donc je pense que l'extrême droite est définie dans des verdicts de la Cour suprême, dans tous les journaux que nous connaissons. Maintenant, ce débat existe en France depuis le 19e siècle. Déjà, Desroulèdes disait « Pourquoi vous appelez ça la droite radicale ? Il y a la droite et il y a la droite molle, la droite hésitante, mais qui sera un jour convaincue de nos idées. » C'est extrêmement dangereux. La glissade est toujours présente. Et donc, continuons d'appeler ça l'extrême droite quand même.
Donc, les mots ont un sens. L'extrême droite, c'est l'extrême droite. Et simplement, je vous demande de rebondir sur la deuxième chose que Charles Sapin vient de dire. Est-ce que le fait d'utiliser le mot extrême droite, ça vous qualifie, vous, avant de qualifier l'objet dont vous parlez ? C'est-à-dire, est-ce que ça fait de vous un journaliste de gauche ?
Pas du tout. J'espère bien que tous les journalistes continueront de l'employer, comme c'est le terme exact, défini, légal, et je dirais presque que si on appelle un canard, c'est un palupède qui marche d'une certaine manière, mais qui n'est pas tout à fait vert, peut-être que ça effectivement définit celui qui parle, mais ça ne définit pas le canard.
Alors, tous les journalistes ne continuent pas de l'employer, il y a une partie de la presse française et des médias français qui ont cessé d'utiliser le terme extrême droite. Charles Sapin.
Alors, je vais rebondir très rapidement, mais si vous voulez, non. Toutes les forces politiques n'ont pas des définitions qui se déclinent en 50 nuances. Si vous voulez, le terme de gauche et de droite ne s'entendent que comme un clivage, c'est-à-dire que la gauche se définit par rapport à la droite et la droite par rapport à la gauche. Bon, on connaît toute l'histoire qui est née lors de la Révolution entre le parti de la conservation et le parti de la Révolution. Je ferme cette parenthèse. Le problème du terme extrême droite, et pourquoi ces nuances posent question pour moi, dans mon travail quotidien de journaliste, c'est que de façon tout à fait calculée. Ce terme extrême droite est employé pour qualifier trois choses extrêmement différentes.
Lesquelles ?
Les totalitarismes génocidaires du XXe siècle, des groupuscules fascisants, violents, qui fantasment sur le fait de mettre à bas les institutions démocratiques par la force.
Aujourd'hui.
Et quelque chose qui n'a rien à voir. Des partis traditionnels qui se présentent à toutes les élections depuis 50 ans, qui n'en ont jamais contesté une seule et qui font partie du jeu démocratique. Et si vous voulez, le fait d'employer ce même terme pour ces trois entités qui sont extrêmement différentes, c'est quelque chose de malhonnête, qui n'a qu'un seul but, c'est de mettre un trait d'union. Ça peut tout à fait s'entendre sur un champ militant. Mais je veux dire, en tant que... Mais c'est impropre à l'exercice
Pour vous, c'est malhonnête ou au contraire, ça met le doigt sur des réalités?
Mais l'effacement de ce terme voudrait en fait suggérer une continuité naturelle entre les héritiers de Charles de Gaulle et quelqu'un qui dit « j'attends le verdict, mais c'est très grave ce qui vient de se passer ». Je refuse d'accepter que ORN, non, on accepte la démocratie, on n'est pas antisémite, on ne fait aucun délit, comme chaque jour... Une nouvelle brebis galeuse est révélée, souvent dans Libération, mais pas seulement, quelquefois dans des journaux de droite, est révélée. Et donc, après, je ne sais pas, des dizaines
de brebis galeuses, c'est-à-dire
brebis galeuses, c'est des gens qui auraient fait des postes qui sont...
Tous ces candidats aux législatives, le masque est tombé.
Anti-président de la République, pro-attentat, antisémite et homophobe et d'autres. Tous ces gens-là sont des brebis galeuses chaque jour.
Voire nostalgiques du régime
hitlérien. Voire nostalgiques de l'époque dont Charles Sapin parlait. Et donc, on peut se demander, est-ce qu'en fait, on n'a pas face à nous un troupeau? Et est-ce que ce troupeau ne peut pas être qualifié d'extrême droite?
Donc, si je comprends bien... Pour vous, au contraire, c'est important d'avoir un seul mot qui recouvre toutes ces réalités, parce que ces réalités sont reliées entre elles.
C'est la même réalité.
Voilà.
C'est la même réalité.
Charles Sapin, le mot nationaliste, c'est intéressant, vous avez choisi le terme de droite nationaliste, pourquoi ?
Mais parce que, si vous voulez, contrairement au terme extrême droite, c'est un terme qui est objectif, qui permet de rattacher ces formations à deux siècles d'histoire idéologique et politique. Et ça, c'est quelque chose de très précieux, parce que quand vous employez ce terme, votre lecteur peut aller voir sa signification et placer dans le temps cette force politique par rapport à une histoire. Et là, tout s'éclaire. Et il y a un deuxième avantage pour moi qui étudie un petit peu ces forces de près, c'est que contrairement au terme extrême droite, qui est une espèce de sac en toile de jute où tout se mélange, qui ne permet pas, par exemple, de différencier une Marine Le Pen d'une Giorgia Meloni, le terme nationalisme le permet. Vous pouvez rentrer dans la granularité de ces forces, différencier entre les nationaux populistes que nous, on connaît bien avec Marine Le Pen, dont le socle idéologique est basé sur une opposition peuple-élite, et des nationaux conservateurs, comme par exemple Giorgia Meloni, où là, pour le coup, les fondations idéologiques sont un discours civilisationnel, conservateur, proche de la lecture de Roger Scruton.
C'est passionnant et on sent bien que c'est fécond, en effet, mais est-ce que vous ne rendez pas là un service immense à Marine Le Pen et à son parti, qui depuis des années récuse le terme extrême droite et d'ailleurs dit elle-même « je ne suis ni de droite ni de gauche ». Est-ce que, au fond, vous n'épousez pas exactement les éléments de langage ?
Alors, votre question est très intéressante et je vais vous répondre en deux temps, très rapidement. La première chose, c'est que non, en fait. Bien sûr que non, je n'aide pas le Rassemblement National, c'est pas mon jeu, mais je ne suis pas là non plus pour l'empêcher et travestir la réalité pour les empêcher de dérouler leur agenda politique. Je suis là pour décrire la réalité politique telle qu'elle est. Or, le terme nationaliste, je tiens à préciser que Marine Le Pen ne l'emploie pas. Elle emploie le terme « je suis une force nationale, je suis une force patriote ». Mais le terme nationaliste n'est pas plus employé par Marine Le Pen que le terme extrême droite. Je continue. Je vous renverse la question. Quel résultat de l'emploi du terme extrême droite? Ça fait 40 ans que tous les journaux de gauche, et même au-delà, emploient ce terme extrême droite. Or, on voit que ces 40 ans ont été les 40 ans les plus féconds pour ces forces nationalistes qui ont une dynamique immense.
Petite précision, et donc, j'aurais dû vous la poser cette question dès le départ. Est-ce que vous représentez une position éditoriale du Point ou est-ce que c'est vous dans votre travail de journaliste politique au Point ?
Non, et je voudrais tirer le chapeau à ma rédaction. Parce que si vous voulez, le Point a cette qualité de donner énormément de liberté à ses journalistes pour employer ou non ces termes à partir du moment où ils sont capables dialectiquement de justifier leur choix.
Donc la rédaction est divisée, il y a plusieurs usages.
C'est pas divisé, c'est-à-dire que vous avez des journalistes au Point qui vont employer le terme extrême droite et moi on me laisse, et je les en remercie, la liberté de ne pas l'employer.
Dov Alfon, vous pointez d'autres groupes de presse ou en contraire, il y a une injonction et il y a une vraie, vraie démarche.
En fait, sur suggestion d'un de nos chefs du service politique, Dominique Albertini, et de Lorecki d'ailleurs, nous avons eu un débat en comité de rédaction autour de cette question. Donc ça rejoint un peu la démarche du Point, sauf que chez nous, c'était à l'unanimité de continuer à employer le terme extrême droite, comme le terme nationaliste voudrait dire, en fait, que, je ne sais pas, Jacques Chirac n'était pas nationaliste ou que Bruno de Retailleau ne l'est pas. Est-ce que le souverainisme de gauche n'est-il pas nationaliste d'une certaine manière? Est-ce que ce n'est pas un terme fourre-tout aussi? Est-ce que ce n'est pas un mot valise aussi? Il y a des nazis. Il y a l'extrême droite. Ce n'est pas la même chose.
Non.
Et donc, on continue d'employer les termes exacts qui définissent
et
des courants.
Et alors, pourquoi renoncer à cette expression « l'union des droites » ? Il va y avoir des élections municipales, peut-être des législatives anticipées, en tout cas, à terme, une présidentielle. Oui. Et on parle beaucoup de cette union des droites, oui. Possible. Hein, et même Nicolas Sarkozy commencerait à l'appeler de ses voeux.
Ça voudrait dire qu'il y a là deux courants qui sont exactement sur les mêmes idéologies, qui se rapprochent en réalité. C'est un rapprochement tout à fait opportuniste entre un courant d'extrême droite et un courant de droite. Leur position idéologique, qu'elle soit nationaliste, économique, sociale, sont à l'opposé l'un de l'autre. C'est donc une espèce je dirais presque de simulacre d'union qui, en réalité, vise à persuader les électeurs que l'extrême droite est une forme de droite tout à fait légitime et qu'on pourrait...
Donc ça banalise l'extrême droite.
Mais Charles, bien entendu.
Alors là, c'est sur l'union entendu. Des droites.
Alors, mais alors là, c'est fabuleux, si vous voulez. Moi, vraiment, je tombe de ma chaise.
Restez là.
Je vous explique pourquoi. Parce que en fait, en deux réponses, vous venez d'asséner deux réalités qui sont, à mon sens, totalement contradictoires. C'est-à-dire que vous êtes attaché au terme extrême droite, qui quand même, quand on réfléchit au sens des mots, l'idée sous-jacente de l'extrême droite, c'est qu'il y a une continuité entre droite et nationaliste, l'un étant l'extrême de l'autre. Ça veut dire qu'il y a une différence d'intensité et non pas de nature. Or, vous précisez, je ne veux pas employer le terme union des droites, parce que finalement, l'un et l'autre ne sont pas la même chose. C'est en gros, vous voulez le terme extrême droite, donc vous reconnaissez une continuité entre les deux, mais quand on parle de la concrétisation politique de cette continuité, qui est l'union des droites, en fait, là vous dites « Ah non, je veux pas le voir ».
Donc vous parlez d'union des droites, c'est Charles oui, Sapin. Vous parlez d'union des droites.
Je vais vous dire pourquoi c'est important.
C'est votre conclusion.
Ah, très bien, c'est que c'est un concept qui est extrêmement important parce que c'est la grande révolution du moment. Si ces forces nationalistes sont à ce point-là en mutation, c'est par l'union des droites. On le voit, des forces traditionnelles qui, en fait, s'allient aux forces nationalistes, qui font tomber les digues qu'ils avaient patiemment érigées contre ces forces nationalistes pour pouvoir conquérir le pouvoir ou s'y maintenir. Ils se mettent à s'associer et on le voit au Parlement européen, ça a des conséquences énormes sur notre quotidien.
C'est la fin de ce débat. Dov Alphond, Libération, Charles Sapin, Le Point. Merci, c'est absolument passionnant. Comment les journalistes politiques doivent-ils nommer les choses?
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Fato, je traînais en bas chaque dia. Je cherchais juste à vivre. Plein de bitches, des ragots. Tiens, l'époque de Wicaco. J'étais déjà plus nia. Je cherchais juste à vivre. Plein de bitches, des ragots. À chaque rue, j'avais un ennemi. Je voulais juste remplir le caddie. J'avais le seum contre tous les chéris. Tous les chéris remplis de ses vies. Ils rêvaient de me voir. Après Dia. Ils se plaignent de la haine qu'ils s'aiment. Ils ne veulent pas qu'on s'aime, qu'ils crèvent. Tomber l'œuf autour d'un bicep. Non, je leur en veux à mort. Ils veulent pas dans ma gueule avoir tort. Oh oui, ma vie, un gueule de bête de biche. Son cœur est tendre, triste, non. Sur ma gueule, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que j'ai pas que t'elle dit. J'ai fait de la sorcellerie, mais non, 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 non. Sur ma gueule, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que j'ai pas que t'es dit. Que je me venge sur la vie. Dia après dia da. Hey, quitte à mettre la mifato. Je traînais en bas chaque dia. Je cherchais juste à vivre. Loin des bitches, des ragots. Tiens, l'époque de Wikako. J'étais déjà plus nia. Je cherchais juste à vivre. Loin des bitches, des ragots. À chaque rue, j'avais un ennemi. Je voulais juste remplir le caddie. J'avais le seum contre tous les chéris. Tous les chéris remplis de série. Ils rêvaient de me voir banni. Mais quand je vis ce qu'ils pourront pas vivre. Bâtard, je me venge sur la vie. Dia après dia da.
Le mag de la matinale se poursuit. Et là, on vient d'entendre Ino Casablanca. C'était le choix musical de la matinale.
Quel
Daphné
bon
Burki,
choix.
C'était l'une de vos nouvelles
c'était
têtes.
Nouvelle tête. On est tellement fiers qu'il soit révélation aux victoires, nommé aux révélations aux victoires de la musique.
Voilà, il est 9h46. On continue, Charline. Mardi, Bernard Arnault a été intronisé à l'Académie des sciences morales et politiques après avoir été élu en décembre 2024.
Oui, vous allez me demander quel est le rapport entre Bernard Arnault et les sciences morales. Mais on s'en fout, Sonia, de ça. C'était une très belle cérémonie. C'était, je dirais, une sorte de couronnement. Voilà. Les plus grandes fortunes de France étaient réunies. Il y avait Rodolphe Saadé, Patrick Pouyanné, Martin Bouygues, Xavier Niel, Vincent Bolloré. Oh, ça m'excite. Ils étaient tous là. Et c'est vraiment dommage que Gabriel Zucman ne se soit pas pointé. Ça aurait mis de l'ambiance. L'alarme se serait déclenchée. Ils auraient été obligés d'évacuer. Donc, mardi, la coupole, c'était la Bourse de Paris, quoi. Il y avait tellement de grandes fortunes qu'on se serait cru au Salon international du ruissellement, à la foire des premiers de cordée. Donc imaginez s'il y avait eu un problème dans la salle. La fin du capitalisme sans révolution. Pardon, je rêve à voix haute. Alors, il y avait aussi trois anciens premiers ministres, Cazeneuve, Barnier et Balladur. Ça, c'est cool qu'un patron invite ses anciens collaborateurs. C'est presque de gauche, je dirais. Et qui a remis l'épée d'académicien à Bernard Arnault? C'est Bruno Le Maire. Oh là là. Rien que pour ça, je pourrais en faire une chronique entière. Mais ne tombons pas dans la facilité. Donc Bruno Le Maire, il a passé tout son temps à l'économie à dire qu'il fallait être ferme avec les grands patrons. Et là, il donne une épée à Bernard Arnault. Ça ne suffisait pas de lui avoir déjà donné plein d'aides aux entreprises sans contrepartie. Il fallait en plus qu'il lui donne une épée. Et si on entre en guerre, rappelez-moi de surtout pas compter sur Bruno pour qu'il nous protège. Alors, les académiciens ont demandé à Le Maire de faire une présentation de Bernard Arnault. Ils savent qu'il est très fort à l'écrit. Hein. C'est sûr qu'ils n'allaient pas lui demander de compter les invités, sinon là, on allait encore se retrouver avec un gros déficit. Et dans son discours, Bruno Le Maire a dit... Ah, je ne sais pas si vous êtes prêts à entendre ça. Vous êtes assis.
Ouais.
Ok, alors j'y vais. Il a dit... Vous êtes une lame en à peu près tout. La silhouette, le regard, l'intelligence, l'intuition. Bon, moi j'aurais ajouté et l'optimisation fiscale aussi. Mais à moi, on ne m'a rien demandé.
Non, c'est sûr.
Voilà. Dans le protocole a placé Anne Hidalgo et Rachida Dati à plusieurs rangées d'écart. Moi, j'aurais refilé une deuxième épée, comme si on aurait eu un vrai duel à Paris. Bref, à l'issue de cette cérémonie, Bernard Arnault est sorti de la coupole tout lustré. Bah, oui, mais comprenez, le problème quand on veut faire un cadeau à Bernard Arnault, c'est qu'il a déjà tout. Hein. Donc là, les copains, ils se sont dit, tiens, si on lui filait un siège à l'académie, c'est... Hein, ça, il n'a pas déjà, non? Attends, je regarde. Non, c'est bon, ça, il n'a pas, vas-y, on fonce. Ok, super. Et pour l'année prochaine, on garde l'idée de lui offrir un Oscar. C'est... On vit dans un monde où Donald Trump a failli recevoir le prix Nobel de la paix. Alors Bernard Arnault, immortel, intronisé par Bruno Le Maire et Vincent Bolloré, finalement, ça passe crème. Mais je pense qu'on nous prépare psychologiquement à voir le prochain prix Pulitzer remis à Morandini.
Oh mon Dieu.
Vous verrez. Laurent entendu ici en premier.
Voilà. Et samedi soir, vous recevez Reda Kateb dans Bistroscopie.
Et
ça va
j'oublie.
Être très belle émission. Oui. Merci, Charline.
La grande matinale sur France Inter.
Daphné Burki et sa nouvelle tête.
Oui, il est 9h50. Et nous sommes en direct dans le studio de la grande matinale de France Inter. Ce matin, ma nouvelle tête est un phénomène inexpliqué pour le moment, mais je compte bien dans les prochaines minutes ouvrir 2-3 dossiers. Bref, ma nouvelle tête s'appelle Eve, il est chanteur, musicien, il démarre à peine Sonia Charline et il remplit les salles 6 mois à l'avance. Je vous dis que c'est un phénomène. Eve a un frère jumeau qui n'est autre que Félix de Tours, un humoriste suivi par des centaines de milliers de followers. Sauf qu'ils se ressemblent vraiment énormément. Et si c'était une seule et même personne qui mène deux vies, deux carrières, deux identités comme dans un film ? Non ! Ce serait épuisant ! Alors revenons à
Là, Ève. C'est carrément un roman.
Oui. Son prénom, donc, serait Adam de Tours. Est-ce qu'il a croqué la pomme ? Et surtout, est-ce qu'il nous distribue les quartiers en se payant un peu notre tête ? Bienvenue, Ève !
Merci
sur
beaucoup.
Inter. Comment ça va ce matin ?
Très bien, et vous ?
Ça va très bien, je suis très heureuse que vous ayez accepté l'invitation.
Avec plaisir.
Pour expliquer ces phénomènes inexpliqués. Alors déjà, pourquoi Ève ? Est-ce que vous vous êtes dit, faut que j'écrive ma première genèse ?
Non, pas du tout, c'est que je m'appelle Adam et j'étais fan d'un groupe qui s'appelle Princesse, qui est un groupe de deux garçons, et qui assumait un peu leur part de sensibilité, de féminité, par un nom féminin, et je trouvais ça super touchant, et ça me ressemblait pas mal, du coup, Adam, Ève, voilà.
C'est exactement donc ça. Ouais. Alors, Ève a sorti à peine une dizaine de titres, ce que je vous disais, et La Cigale, par exemple, qui est une grande salle parisienne, a été complète en 6 mois à l'avance, comme ça, en 2 secondes. Vous êtes un phénomène, Ève.
Oh, pas mal.
Fallait que je la fasse. Et vous venez de sortir un morceau. Oh, c'est un phénomène, Ève. C'est vachement bien trouvé, Sonia, dis donc. Elle exagère, celle-là. Alors, vous venez de sortir un nouveau morceau, très personnel, magnifique. Je vous propose le studio de France Inter, ça vous va ?
Très bien, avec plaisir.
Il est tout à vous.
Oui, j'ai déjà aimé un homme. Je sais même pas si c'était réciproque. On ne se voyait qu'au téléphone. Maman m'a dit qu'il m'aimait fort. Depuis 22 ans, tout ça m'obsède. J'ai l'impression qu'elle avait tort. Parce qu'il lui a tiré des problèmes. Puis qui me disait qu'elle était folle. Oh oh, oh. Baliverne, baliverne, baliverne. Les hommes assument leur choix pendant que les garçons s'évaporent. Baliverne. Les hommes assument leur choix pendant que les garçons s'évaporent. Baliverne, baliverne. Merci beaucoup.
Bah oui, cette chanson, elle est magnifique. Elle est sortie là, il y a quelques heures, hein, finalement. Il parle, vous l'avez compris, j'imagine, vous qui nous écoutez, du divorce de ses parents, de votre rapport à votre père. Il fallait écrire ce morceau. Est-ce que ça a été une libération, une réconciliation, ou une façon tout simplement de poser des mots sur ce qui vous hante ?
Alors, c'était un petit peu tout à la fois, et je pense, c'est un petit peu caricatural de dire ça, mais que c'était un peu un moment très important pour moi, un moment un peu un tournant dans ma vie, je crois. Ouais, c'était... ça m'a permis en fait de rediscuter avec mon papa de tout ça. J'en avais jamais parlé avec lui. Et j'ai fini le titre. J'ai mis très longtemps à écrire le titre parce que c'était un peu la chanson que j'ai toujours rêvé d'écrire un peu parce que c'est un peu le sujet important dans ma vie. Et j'en ai parlé il y a 2 semaines avec mon papa qui je lui ai fait écouter le titre. Il a très bien pris. Et je crois qu'il y aura un avant après dans notre relation après ça.
J'imagine, j'ose même pas imaginer ce moment. On connaît pas grand chose finalement sur vous, je dis, vous avez démarré en trombe. Vous écrivez beaucoup de chansons sur l'amour, sur ses méandres. Ouais. Vous êtes en mission, en missionnaire, comme vous dites dans l'une de vos chansons. Je vous ai proposé, pour en savoir un peu plus aussi, d'enchaîner tout de suite sur une reprise, parce que moi j'aime bien savoir un peu quelles sont les références de mes nouvelles têtes, ça nous pose un univers. Et vous avez choisi Creep de Radiohead, c'est une chanson justement sur le sentiment de ne jamais se sentir exactement à sa place. Pourquoi vous avez choisi celle-ci ?
Parce que j'ai commencé... Je suis issu de la culture rap, on va dire. J'ai commencé par le rap. Et à un moment, je me sentais pas très à l'aise. Enfin, je me sentais pas très fort, en fait, hein, dans ce style. Et je me suis dit, OK, il va falloir que je chante. Et du coup, je cherchais des chansons sur lesquelles... Enfin, des chansons que je pouvais chanter. Et chez ma grand-mère, un soir, j'étais seul chez elle. Et il y avait ce disque de Radiohead. Et je l'ai mis. Je me suis dit, OK, maintenant, je vais essayer de chanter. Et c'est une des premières chansons sur lesquelles je me suis dit...
C'était votre première fois, c'était chez vos grands-parents.
Exactement, ouais.
Vos grands-parents écoutent Radiohead.
Mes grands-parents écoute Radio.
Ils sont super.
Et Ino Casablanca.
Êtes-vous sûr de ça?
Pas sûr non plus.
Mais ils écoutent France Inter et Nouvelle Tête, donc ils écoutent Ino Casablanca. C'est vachement bien foutu ces Nouvelles Têtes.
Bien sûr.
Moi je dis que c'est une... Bref, vraiment c'est une source sûre. Hein. N'hésitez pas à partager, à podcaster. Alors moi je vous propose de faire votre prise de Creep dans le studio de France Inter.
When you were before, couldn't look you in the eyes. You're just like an angel. Your skin make me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here.
De Radiohead par Eve, qui en effet cherche sa place. Qui aurait pu vous dissuader d'ailleurs de vous lancer dans la musique, Eve ?
Il y a eu, plusieurs étapes un petit peu difficiles, énormément, mais j'ai sorti mes premiers freestyles de rap au lycée, et donc, comme je vous le disais, j'étais pas trop à ma place, j'étais pas très fort, et c'est vrai que beaucoup m'ont fait remarquer à ce moment-là.
Quand on est aussi mauvais, on se tait, c'est ça ?
Oui, voilà. Et j'ai fait la rencontre de Vincent, de Tiomi, qui est mon super
copain.
Mais
oui, qui vous accompagne aujourd'hui au clavier.
Exactement, et avec qui on a commencé la musique, j'ai commencé la musique avec lui, et on a vraiment progressé, et j'ai capté qu'il y avait un gap abyssal entre un bon rappeur et moi, et c'est grâce à ça que je suis allé vers la pop.
Bon, et j'imagine aussi que votre frère, Félix de Tours, revanche, il vous soutient beaucoup, parce que c'est quand même assez troublant, hein, vous ressemblez vraiment énormément. Il s'est lancé, lui, dans l'humour en janvier 2023, il a des centaines de milliers de followers, il est vraiment plébiscité. Hein. Mais ça doit être génial d'avoir un jumeau dans l'humour, vous êtes dans la musique, peut-être qu'il faudrait des triplés, peut-être qu'il y en a un troisième qui est footballeur, votre première vocation.
Exactement, j'aimerais beaucoup, et c'est Mbappé, voilà, c'est Mbappé, l'enfant caché, voilà.
Il continuera sa légende, alors tout va bien. Alors, je m'étais promis que je te dirais je t'aime. On va réparer nos cœurs. Jamais séparer nos corps. Ce soir de février. Tout va bien. Est-ce que vous avez envie de lancer une rumeur, puisque Eve, vous êtes au tout début de votre carrière, une rumeur sur votre vie, ce sera une nouvelle ligne Wikipédia.
Ouais, je pense, je rêverais qu'un jour on pense que je suis la source principale d'inspiration de Bruno Mars.
Et ça s'entend.
Voilà, c'est
exactement
assez
ça. C'est
évident, oui.
C'est exactement ça. Et enfin, avant de se quitter, une dédicace ce matin.
Oui, bisous maman, je t'aime.
Il s'appelle Eve. Alors, vous pouvez le suivre sur tous les réseaux sociaux, de TikTok à Instagram, et surtout en tournée bientôt dans toutes les villes de France. Merci, Eve.
Merci beaucoup.
Et
à
si
vous.
J'invite le frère jumeau qui fait de l'humour,
alors qu'est-ce qu'on fait?
Je risque d'avoir le même au micro.
On ne sait pas.
On ne sait on pas. Ne sait c'est pas. Un mystère.
Vous verrez bien.
Merci en tout cas d'avoir réhabilité le terme baliverne.
Merci beaucoup.
C'est la fin de la grande matinale. C'est la fin du magazine. Dans un instant, juste après les infos, Ali Rebéi.
Eh bien, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, quels sont les meilleurs et les pires produits pour bébés avec le mensuel 60 millions de consommateurs à l'occasion de la sortie d'un hors-série en kiosque. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 et à nous contacter également sur l'appli France Inter.
À tout à l'heure. Salut à tous.